Radio Libertaire. Josie.
Oui.
Ça passe.
Présent.
Ça passe.
Présent.
Ça,
oui,
passe,
ça passe
à l'antenne.
Ça passe à l'antenne, oui, on dirait.
Oui. Voilà, non, je crois que c'est ça.
Formidable.
Donc, alors,
Radio Liberté.
Émission chronique hebdo mixte, un mélange, c'est pas le mélange qui existe. C'est une émission. C'est une émission le dimanche, et là, Marlène, Rimes et Donod, jusqu'à 14h, et la première partie.
Ouais,
on en avait convenu.
C'est-à-dire. Enfin, je remarque quand même, les garçons et les filles sont dans le même studio ici, hein. C'est bien, hein?
Oui.
Moi, mon école, moi, tiens, les filles, pas l'op, hein. Il n'y en avait pas une, hein.
Alors, la mixité, on y est favorable, hein, surtout.
Oui.
De plus en plus.
T'aurais moins de cheveux blancs.
Alors, oui, mais ça, c'est une perruque, Lenny. Non, je vais dire. Non. Mais je voulais te parler de la chanson Merde à Vauban.
Oui.
Alors, par rapport. Léo Ferré.
Oui.
Léo Ferré et
Seghers.
Et alors, tu veux le dire, justement, les paroles, donc, par rapport à cette chanson que tu as choisie.
Oui.
Et est-ce que tu veux, est-ce que tu en as parlé dans ton bouquin, ta rencontre, comment ça s'est passé avec Léo Ferré?
Ma première rencontre avec lui.
Oui.
Oh, très mal. Très, très mal.
Oui. C'est la première fois. Oui.
Encore un.
La toute première fois, comme on dit.
Très mal. Oui. Mais je vais quand même essayer de te dire en une seule phrase nos rapports. Je le dis et c'est vrai. Léo m'aimait beaucoup et je dirais même qu'il recherchait mon amitié. Il la recherchait vraiment. À chaque fois qu'on se rencontrait, à chaque fois qu'on se voyait, mais Zélénie, tu ne me pardonnes rien, toi. Tu ne me pardonnes jamais rien. J'ai non à toi, non. Toi, t'es pas pardonnable. Voilà. C'est comme ça. Je t'aime bien quand même.
Ouais.
Voilà. Mais, toi, t'es pas pardonnable. Bon. Mais chaque fois, il me le disait. Nombre de fois, il m'invitait à aller en Toscane et tout.
Oui. Bon.
Et où j'y suis pas allé. On se serait bouffé la gueule tous les deux. Hein. Mais c'est vrai, j'aimais beaucoup. Alors bon, je dis. Georges le disait, il disait « je suis un faiseur de chansons, je ne suis pas un poète ». Brel le disait « je suis un faiseur de chansons, pas un poète ». Moi je dis qu'il n'y a fait que Ferré qui a fait les deux. Quand Ferré écrit « Paris canaille, le piano du pauvre », c'est un faiseur de chansons, de grand talent, hein, mais un faiseur de chansons. Quand il a écrit « La
mémoire et la mer »,
« La mémoire et la mer », c'est un poète. On n'est pas loin de Baudelaire, putain, oh que c'est beau, que c'est beau. Là c'est un poète. Lui, il a fait les deux, lui. À ma connaissance, il est le seul à avoir été les deux. Et poète, et faiseur de chansons. Léo. Il avait un putain de talent, hein. Ouais. Il y a un truc dont je voulais te parler, là.
Ouais.
Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, vous, quand on parle d'État-providence. Parce que moi, à ma connaissance, l'État, il génère pas une thune.
Oui, oui.
Pas un rond. Elle vient d'où, sa providence? Elle vient de nous.
Oui, c'est
ça. Alors, il donne rien l'État, c'est pas lui.
Bien sûr, oui.
Alors, ça veut dire quoi l'État providence?
Oui, mais c'est surtout un mot qui est un.
Mais qui l'a inventé ce mot-là aussi?
Bah, c'est les ultralibéraux pour dénoncer la couverture sociale et tout ce qui était gagné par le peuple et par les luttes.
Mis en place par le Conseil national de la résistance,
bien sûr.
C'est pour ça.
C'est quelle place qui a été débaptisée? Là, on l'a rebaptisé Léon Blum.
Oui.
Léon Blum, c'est pas celui qui a inventé l'expression la non-intervention au moment de la guerre d'Espagne?
Ah bon?
Hein, je te demande.
Oui.
Oui, mais là.
C'est lui. Ah oui, il n'y a pas de lalard. Hein. Parce qu'attention, là, tu vas avoir un client, là.
Non, mais je vais te dire, enfin, bon, après, je vais te montrer quelque chose par rapport à la
succession. Ah bon, on n'est jamais mauvais en tout, hein. Je ne dis pas qu'il a été mauvais en tout.
Non,
hein.
Pas lui.
Mais moi, j'ai encore en travers.
La succession des socialistes, la succession des socialistes.
Mais c'est lui qui a inventé la formule, la non-intervention. C'est Léon Blum. Parce que quand il est mort, Léon Blum, il paraît que ses dernières paroles, parce qu'il étouffait un peu, tu vois, comme moi, là, hein, et que ses dernières paroles, c'était « J'ai la guerre de l'Espagne, là, en travers. Là. J'aurais été là, moi, j'aurais mis le pied sur le tuyau, tu vois. J'ai « Comment tu l'as, maintenant, la guerre d'Espagne ? Hein ? Maintenant que j'ai le pied sur le tuyau, ça te gêne pour respirer ?» J'ai nous aussi, ça nous a gênés. Mon petit père, ça l'a gêné. Toute ma famille, ça l'a gêné. Que les soi-disant démocraties ne bougent pas. alors que je savais parfaitement qu'Hitler et Mussolini s'en donnaient à cœur joie en Espagne.
Hein? Alors, je voulais juste lire, mais je vais le faire tout à l'heure pour me montrer que c'est une longue tradition pour les socialistes, le fait de la non-intervention, oui. Et en particulier, donc, ça s'est renforcé là, dernièrement, puisqu'il y a non-intervention, on l'a vu, au Mali.
Oui.
Il y a eu une tentative de non-intervention
en
Syrie.
On intervient là, il y a du minerai, oui, là on intervient là.
Et puis ce matin, ça vient d'arriver, c'est l'intervention en Centrafrique. Centrafrique, hein, voilà.
Oui, oui, je sais,
c'est
oui.
C'est pour ça. Donc,
la France devient le gendarme de l'Afrique.
Oui, oui.
Oui, oui.
Avec le feu vert de l'ONU.
Mais évidemment,
pour la défense de la paix.
J'ai entendu aussi que Renault, il montait une usine en Chine. Alors à ma connaissance, comme là-bas, eux, c'est toujours un partenariat où ils sont majoritaires, hein, les Chinois. Parce qu'ils ne sont pas fous, tu comprends. Et il va faire les 49%, Renault. Mais Renault, quand il va exporter l'oseille, les bénéfices qui restent, avec pour qui? Pour les actionnaires. Ils disent c'est bon pour la France. Ah oui, la France peut-être, pas les Français. Hein. Parce que c'est qui là, la France là? C'est les actionnaires qui vont prendre le pognon. Mais ils ne vont pas embaucher un seul ouvrier français.
Juste Léo, je voulais te dire...
Non, je ne m'appelle pas Léo.
Non, on l'a fait
non,
tout
non,
à l'heure.
Attends,
on l'a fait tout à l'heure avec Lénie. Juste, je voulais te dire, parce que tu évoquais Léo Blum. Alors c'était ça, gouverne en 1946, lorsqu'éclate la guerre d'Indochine. Sous le gouvernement de Mendès-France, en 1954, débute la guerre d'Algérie. Guy Mollet, chef du gouvernement en 1956...
Ah, mais c'est toujours les socialistes, les guerres coloniales.
Voilà. Alors donc, j'en passe. Sous la présidence de Mitterrand, en 1991, la France participe à l'expédition en Irak.
Après avoir beaucoup guillotiné en Algérie, voilà. Mitterrand...
C'est ça. Et Lionel Jospin envoie en 1999 l'armée au Kosovo. Kouchner devient la même année représentant spécial de l'ONU dans cette région.
Puis Total en Birmanie.
Oui, bah aussi. Et le même Premier ministre participe à la coalition qui pénètre en 2001 en Afghanistan. Ne l'oublions pas. Mmh. Hollande envoie en 2013, on venait de le dire, au Mali. L'envie de faire bombarder la Syrie, et là, dernière nouvelle, l'intervention, donc on appelle ça les socialistes. Alors, est-ce que c'est des socialistes, le parti socialiste en treillis, hein, c'est
non,
ça.
Non, mais attends, voilà. Si Louis Blanc sortait de sa tombe, allait voir notre ministre des Affaires étrangères, il va dire, t'es socialiste, toi? Il retourne au tombeau tout de suite. Hein.
Oui.
Ah, il creuse lui-même sa fosse.
Voilà, c'est une appellation mensongère. Hein,
évidemment
de plus en plus.
Que c'est une appellation mensongère. Mais ils ont toujours menti. Hein. Toujours. Et toutes les guerres coloniales ont été faites par les socialistes. Mmh. Regarde la répression en Algérie, c'était les socialistes. Partout d'ailleurs. Mmh. Partout, tout le temps. Mmh. Toujours. Hein. La droite s'est bien démerdée hein, de leur refiler le bébé. Hein.
Ouais. Sans être national, hein, on va oser.
Oui.
Sans être national socialiste. Hein.
Oui.
C'est pour ça,
oui,
hein,
oui.
Parce que bon, il y a des proximités, enfin, il y a des choses qui ont été faites. Évidemment, on est très très loin dont on ne parle peu. Alors, Floréal, tout à l'heure, justement, tu voulais poser une question à Lénie.
Bah oui, Lénie a parlé de brièvement, mais des rapports avec Léo Ferré. En lisant le bouquin, moi, je voulais savoir s'il y avait une explication à l'inimitié, pour pas dire plus, de Jacques Brel à ton égard.
Bah oui, bah écoute, Jean-Paul est presque mieux placé que moi pour te le dire. Il y a deux bios sur Brel qui viennent de sortir. Une de Hidalgo.
Ouais.
L'autre, je ne me rappelle plus son nom.
Vassal.
Et tous les deux donnent l'explication, ils donnent la même. Moi, quand j'ai écrit le mien, que je ne savais pas encore, je suis resté sur le cul, c'est vraiment sans intérêt.
Ah ouais.
Vraiment, c'est pas... Moi, j'ai écrit Balade à Sylvie, le texte, les paroles. Hein. Bon, quand on est môme, moi j'écris à 13 ans. Bon, quand t'écris à 13 ans, dès que ça rime, c'est un poème quand t'as 13 ans, même si c'est des vers de Mirliton. Hein. Bon, t'as 13 ans, ça rime, t'as écrit un poème. J'écris ça à 13 ans. Et l'inimitié de Brel, elle venait du fait que il était avec une nana qui s'appelait Sylvie, qu'il était persuadé que j'avais écrit balade à Sylvie pour elle, que j'avais été son amant, et qu'il me suffisait de lever le petit doigt pour qu'elle revienne. Et voilà pourquoi il m'a haï, ce mec. C'est quand même trop con. J'écris ce texte, moi, j'ai 13 ans. Sa Sylvie, elle n'est même pas venue au monde encore. Tu parles que je l'ai regretté, moi. J'aurais adoré, Brel, j'aurais adoré que ce soit mon pote. Qu'on soit pote, ah oui. Moi, j'ai tourné avec lui, hein. J'ai fait un mois de tournée tous les soirs. Tous les soirs, j'étais dans la salle et j'assistais à un truc absolument extraordinaire. Je le raconte dans le bouquin. Je l'avais vu répéter tous les jours. Brel, c'était le plus grand comédien que j'ai vu. Mais dans le sens noble du terme. Grand comédien. Et je voyais répéter tous les jours le moindre geste, la moindre grimace, la moindre intention, le moindre mouvement vers ses musiciens. Tout. Il le refaisait le soir même, pareil. Et moi, j'avais l'impression que ça venait au monde, qu'il le faisait pour la première fois de sa vie, que c'était instinctif, tellement il te faisait... Ça sentait pas la sueur, ça sentait pas le boulot, tu vois, le travail, la répétition. C'était une... Pour moi, c'était un émerveillement. Tous les soirs, j'étais émerveillé, je voyais... Jamais tu seras comme lui. Jamais, 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 jamais. Moi, je pouvais pas, d'ailleurs. Le peu de cinéma que j'ai fait, par exemple, premier truc que je dis au réalisateur, je vous préviens, il ne faut pas me faire répéter. Je ne répète pas. Moi, c'est le premier jet. Je ne suis pas un comédien. Le premier jet, ça va. Après, s'il faut que je répète, ça me fait chier.
Tu en parles dans ton livre, hein.
Oui, oui.
On précise ça.
J'ai l'impression justement de répéter, tu vois, d'être répétitif. Je ne suis pas un comédien, voilà le problème. Alors que Brel était un merveilleux comédien. Un merveilleux comédien. Puis alors, quelle plume, il a écrit des chefs-d'œuvre. J'ai continué, lui. Hein. C'était une merveille. Moi, je regrettais, puis je comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je dis, mais putain, pourquoi? Pourquoi il me...
Oui, tu le relates, ça, cette rencontre avec lui. Hein.
Attends, entrer dans la loge.
Ouais, ouais.
Quand il vient remplacer, De Vos, hein. Toute la tournée s'était faite avec Do. J'ai tourné avec lui pendant 7 ou 8 mois par là. Toute la France, toute l'Europe, l'Italie, les pays scandinaves, Belgique, bon, tout ça. Et tout ça avec Canetti, hein. Et avec les trois baudets. Et De Vos va faire un tournée, un film pendant un mois. Et c'est Brel qui le remplace. Le soir, le jour où il arrive, c'était à Melun. Il rentre dans la loge, on est tous là. Il vient, il serre la main à tout le monde. Moi, il ne me tend pas la main. Il passe devant moi, il ne me salue pas. Tout le monde s'en rend compte, tu vois, s'en aperçoit. Hein. Le soir même, c'était... comment il s'appelait? Je ne sais pas si tu l'as connu, ce mec. Il a fait une carrière avec un seul sketch. Le moteur à escargot. C'était un mec qui présentait et en même temps, tu vois, il découpait son moteur à escargot par petits bouts, tu vois. Il était ingénieur de Grenoble, hein. Attends, ce mec était ingénieur.
Ingénieur de Grenoble aussi.
Oui, de Grenoble, là où cherchait un taulier, là.
Bon. Ouais. Il n'avait que ce sketch-là de...
Il en avait qu'un, tu sais, comme...
Ah ouais.
Après, ça me reviendra peut-être le nom.
Ouais, le nom, d'accord.
Une figure musical, une figure fabuleuse pour moi, qui n'avait aussi qu'un seul numéro. Hein,
ouais.
Il avait 40 ans, le même, toujours pareil. Capitaine Sabord.
Ouais.
Quelle rigolade. Je crevais de rire, moi, ce mec. À chaque fois, je revoyais son numéro. Je connaissais par cœur et à chaque fois, je rigolais. Ouais. Et je ne sais plus ce que je voulais te dire. Je me suis embarqué.
Si par rapport à... Pour Brel, là, c'est ça, on parlait de...
Oui, mais... oui, bon, donc, là, le soir... C'était Roger Comte qui présentait le spectacle, présentait tout le monde. Moi, je suis passé en coup de torchon. Et, bon, pour ceux qui ne savent pas, en numéro 1, quoi, hein, en levée de rideau.
Ouais.
Et normalement, le spectacle sur l'affiche était annoncé à 20h30. Mais il y avait les portes étaient grandes ouvertes, les lumières de la salle allumées, et les gens arrivaient. Et... Roger Comte, il regarde le rideau, il me dit, écoute, les news, va attendre un peu. Il dit, parce que les gens arrivent, 20h30 pile, Brel arrive sur la scène, déjà, avec le rideau était tiré. Hein. Il arrive avec sa serviette autour du cou et il se tourne vers Roger Comte. Il est 20h30. Et Roger lui dit, mais attends, Jacques, il dit, les lumières de la salle sont encore allumées, les gens arrivent. Il dit, on va attendre un petit peu. Il dit, 20h30. Il dit, les levées de rideau, ils sont là pour ça. J'ai dit 20h30. Et il se tire. Roger Comte, il se tourne vers moi, il dit, Léni, c'est la nouvelle tête d'affiche. Je suis obligé de... Voilà. Et il me présente, moi je rentre alors que les gens... Je vais sur scène alors. Et attends, lui, et tu lèves pas le rideau. Alors sans micro. Le rideau fermé et sans micro. Alors moi je vais devant le rideau, c'est un cinéma, j'avais un mètre devant. Alors les gens qui y arrivaient, qui s'asseyaient, il y en a qui ont dû dire après, mais t'as rien remarqué toi? Ben non, je sais pas, moi je crois qu'il venait vendre des bonbons, mais apparemment il n'en a pas vendu, je sais pas ce qu'il est venu faire. Oui, il y a un mec qui est passé là, j'ai pas bien remarqué, mais je sais pas ce qu'il est venu faire exactement. Ah, écoute, je vais te dire, c'était dur, hein.
Ouais, c'est dur.
Ouais. Oh, c'était dur quand tu... Enfin, moi, en plus de ça, j'ai toujours été un peu un lièvre, tu vois, sous les projos, hein, un jour d'ouverture de la chasse. Hein. Alors j'étais, mais... Ouf, détruit. Doublement, tu vois, parce qu'on est tellement en position de faiblesse, tu vois. J'aurais eu des raisons, à un moment donné, de le détester. Parce que je me serais dit, putain, merde, il me prend quand même, je suis par terre. Hein. Oui. Moi, quand je le raconte, hein, quand j'ai fait ma grève devant la porte, en travers de la porte du bureau de Jacques Play, qui avait pris la place de Canetti chez Philips et qui voulait pas que je fasse des disques, moi, Brel m'a enjambé pour rentrer dans le Burlin. Il m'a enjambé. Il m'a regardé de tout là-haut. J'étais par terre.
Alors, Lélie, va y avoir, grâce au miracle de la technique...
Oh là.
C'est pour ça que je commence comme ça. Hein.
Oh, moi, petite aventure peut-être, là.
Bon. Et ni Dieu ni maître, donc tu sais bien. Et à partir de 12h30, une intervention d'une personne qui...
Ah, il y a le cache-route.
Qui voudrait parler avec toi. Alors, je ne sais pas comment... si ça fonctionne... À partir de 12h30. Alors, en attendant, Josie...
Godot
aussi. Elle nous fera signe. Et si tu voulais revenir, peut-être, parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais écrit...
T'as toujours le droit de rêver. Il hein. n'y a que le diable qui peut vivre sans rêver. Hein.
Exactement. Balade à Sylvie à 13 ans, oui. 12 ans, et pour une amourette.
Tu l'as écrit. Pour une amourette, guère plus tard.
Oui, c'est ça. Hein. Ah oui.
Hier plus tard, à Malipense, pareil. J'avais 14 ans quand j'écris les paroles.
Les paroles. Mais oui, t'avais la mélodie en tête?
Non, pas du tout. Moi, je pensais jamais que ça ferait des chansons.
Ah ouais,
j'y pensais pas une seconde, moi. Moi, je suis arrivé dans la chanson vraiment avec pratiquement le flingue au creux des reins. Je voulais pas, moi, chanter. Hein. Je voulais pas. Moi, je suis pour montrer mes chansons, que d'autres les prennent. Comme personne ne les prenait, j'étais obligé de les porter, quoi. Mais je voulais pas, hein, au début. Hein.
Oui.
Bon, puis après, je me suis fait avoir. Hein. J'ai pris la guêpe. Hein. Bon. Après, je me suis rendu compte que, bon, que j'aimais ça, quoi.
Oui, parce que ces deux textes-là, à partir de... quand tu les chantes la première fois, c'est en 1960
Non, je les chante bien avant, mais...
Non, mais...
Pour toi, pour le
disque.
Pour le disque, oui. Il sort en 62.
62.
Mais tout début, hein, février 62, je crois.
Oui. Et la mélodie, alors, comment
ça m'est venue comme ça.
Ah oui.
Balade à Sylvie, pareil, l'amourette, pareil. Je ne joue de rien, hein, pas une note de guitare, je ne connais pas une note de musique. Mm. Je suis un génie, qu'est-ce que tu veux que je te dise
Ça, c'est...
Et merde, quoi.
Surtout à l'époque.
Ah ben, c'est une époque pour ça.
Et voilà, c'est fini, c'est révolu. Non, mais alors à l'époque, alors aussi, on parle le phénomène Léni Escudero, on va dire ça,
oui.
avec les yéyés. Alors toi, t'es dans la vague yéyé à contre-courant complètement.
Oui, on peut dire ça comme les saumons.
Hein, c'est ça. Et oui, t'as remonté. C'était pas.
Et y avait j'étais saumon, moi. Je remontais le courant.
Et il y avait les requins.
Oui, ah bah oui, je les avais tous au cul.
Il y avait les requins. Et donc, c'est vrai que ça fait quelque chose quand même hein, de voir quand on voit les premières apparitions. Moi, je me souviens à la télévision.
Mais tu veux que je te dise ?
Ouais.
Eh bien, en étant un contre-courant, même j'ai une petite analyse maintenant, hein, j'avais quand même beaucoup plus de chance que si j'avais essayé de faire du yéyé. Parce que là, j'en avais aucune. Hein. Là, j'avais aucune chance. Ouais. Il y avait une concurrence terrible, là. Tandis que là, contre-courant, j'étais pratiquement tout seul, tu comprends, qui arrivait comme ça.
Et puis, c'est pas des chansons écrites, c'était souvent des traductions, non?
Les ah premières. Oui, c'était des adaptations.
Ah ouais, ouais, c'est ça. Hein.
Puis c'était le même malfaisant, tu vois, qui les écrivait. Écoute, ah oui. Je veux pas dire son nom, parce que je sais pas s'il est pas déjà froid, j'en sais rien, mais je veux pas dire son nom. Je veux pas y faire de peine,
pour tous les.
Mais alors, vraiment un malfaisant. Oh là là. Oui, aïe, aïe. Oh là là. Terrible. Des paroles, c'était pas des paroles, c'était... En revanche, comme il piquait des chansons états-uniennes, il y avait toujours de très belles mélodies.
C'est ça, bah oui.
Voilà. Il y avait toujours de très belles mélodies.
C'était...
Et puis après, parce qu'ils achetaient pas les originaux. Hein. À cette époque-là, ils achetaient les adaptations. Et puis à un moment donné, il y a eu un... Hop, ça a changé. Ils ont commencé à acheter... Je sais pas si ça a commencé avec les Beatles... qu'ils ont préféré acheter les Beatles plutôt qu'une adaptation des Beatles chantée par Mormoelneux.
Mais quand même, dans ton bouquin, il y a certains chanteurs qu'on classe dans la vague yéyé dont tu parles pas en mauvais termes.
Non, pas du tout. Parce que je veux dire que moi, pour moi, quelqu'un qui va sur scène, il y a un public qui est devant, quel qu'il soit, hein. S'il arrive à donner quelques minutes de bonheur, ben moi je dis que c'est respectable. Quelques minutes de, y a pas de petit bonheur.
Là, on peut même donner un nom. Tu étais une page très élogieuse et très touchante sur Sylvie Vartan.
Ouais. Par exemple, oui. Ouais, moi, j'ai vu des salles qui ont pris heureuse avec en écoutant Sylvie. Bon, mais je trouve ça merveilleux. Elle a rempli son. Si on a un contrat, je veux dire à remplir, c'est celui-là. Elle l'a rempli. Elle a rendu des gens heureux pendant un moment. Alors, il n'y a pas à dire, ouais, mais ça, c'est un bonheur de merde. Le vrai bonheur, devant, c'est où le lac de Côme où on fleure. Hein. Mais alors, Aubervilliers, arrête.
Et passé la première fois, quand les Beatles sont venus à l'Olympia, il y avait Sylvie Vartan et Pitrilli Lopez. Hein.
Oui.
Et donc elle était là, donc avec la chanson, il me semble bien, d'Aznavour. Ce soir, je serai la plus belle. Ouais. Hein, c'était ça.
Oui, c'était la cuisine de Cocatrix et d'Europe 1 à l'époque. Où, comme je disais tout à l'heure, on mélangeait, on mettait Pierre Perret en première partie des Rolling Stones et Sylvie Vartan en première partie des Beatles.
Oui, mais attends, les Beatles.
Pour ramasser
la première fois qu'ils sont venus, ils sont passés en première partie. Hein,
oui.
À l'Olympia.
Oui.
La première fois, ils sont venus à.
Et après, c'est ça.
Après, ils ont fait la vedette.
Non, mais la première partie, c'était eux.
Oui.
Par rapport à Vartan et Trini Lopez.
Oui, voilà.
Hein, c'est ça.
C'était les Beatles.
C'est ça.
Et comme, moi, je venais de faire l'Olympia.
Ouais.
Et Bruno avait gardé ma Milito. Écoute, j'avais des cheveux partout. C'est pour voir les yeux et tout. J'en avais partout. Et ils se sont plantés devant, tu vois, ils disent, putain, mais celui-là, il en a plus que nous. qui sait ce mec, ils ont voulu m'encontrer.
D'accord. L'explication, les cheveux longs, après.
J'ai bouffé avec eux au moins une dizaine de fois, c'est marrant. Ils allaient toujours bouffer au même endroit. Ils voulaient que cet endroit-là, moi, ils me l'ont fait découvrir, je ne trouvais pas que ça avait un truc extraordinaire. La Calavados, je ne sais pas si vous connaissez. C'est rue Pierre Ier de Serbie ou un truc comme ça, tu vois.
Pourquoi ?
Par là.
Voilà, il va falloir... on va mettre une petite musique, puis on va essayer de joindre un ami à Lénie, alors, qui essaye de nous appeler. On espère. Oh, mais tu n'avais pas que des ennemis, quand même.
Le vieux Jonathan, qui était notre ami, aimait aux enfants. Raconter sa vie, redis-nous encore. raconter à sa guerre en trop. Pour sauver un gars, il fut un héros. Il perdit un bras, on a rigolé. Quand le vieux Jonathan nous l'a raconté, et s'il s'arrêtait parce que trop ému, nous on lui disait, vas-y continue. Et il racontait. Faut vous dire qu'avant, je vivais pas seul ici. J'avais une femme, elle était jolie. Mais elle trouvait pas que je l'embrassais bien, que je l'embrassais plein seulement d'un bras. Qui font mal en dedans. On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté. Une larme au bord de ses grands yeux bleus, mais c'était encore pour qu'on rigole mieux. Et le temps passait. Par un jour d'hiver, il a fini son attendions comme avant. Il parlait tout bas, mais savait, faut croire, que la mort n'attend pas la fin des histoires. J'en rigole encore, j'en rigole encore, car avant de mourir, il m'a dit petit, ris encore longtemps, car ma chienne de vie, je n'ai eu que le rire des enfants. J'en rigole encore, car si tu m'entends, mon vieux Jonathan, dans ton paradis, tu te dis le petit, il rigole encore comme les enfants. J'en rigole encore, car si tu m'entends, mon vieux Jonathan, dans ton paradis, tu te dis le petit, il rigole encore comme les enfants. J'en
dors tranquille, cher Henri. Voilà qu'une femme veille à ton charivari et ses mille merveilles. Va à ton ciel sous la toile, le cirque Charlival roule, roule ses balles par-delà les étoiles. Charlival, Charlival, ce nom-là sonne, sonne comme sonne la cymbale de ton cœur qui se donne. Roulotte de carton, au gré de tes balades et valise sans fond à tes rêves nomades. Tout ce qui vagabonde te mettait en émoi. Tu parcourais le monde, même en restant chez toi. Charlival, Charlival, ce nom-là sonne, sonne comme sonne la cymbale de ton cœur qui se donne. Il fallait l'avoir vu, ce cirque de poupées aux longues jambes nues que tu faisais danser. Écuyer de la romance pour Sophie la fidèle, tu avais l'apparence des princes éternels. Charlival, Charlival, ce nom-là sonne, sonne comme sonne la cymbale de ton cœur qui se donne. Montreur de vie rêvée sous des cieux indomptés, qu'une-tu allumé en ton cercle enchanté. Nous sommes quelques-uns à brûler de mille feux en suivant le chemin du cirque et de ses jeux. Charlival, Charlival, ce nom-là sonne, sonne comme sonne la cymbale de ton cœur qui se donne. Danser chevaux d'envol dans la piste aux souvenirs, un chapiteau corolle ne cesse de vous fleurir. Tes naissances et portiques, monsieur loyal s'en va, mais là où va son pas. Dieu, Dieu est-il bon public? Charlival, Charlival, ce nom-là sonne, sonne comme sonne la cymbale de ton cœur qui se donne. Charlival, Charlival, ce nom-là sonne, sonne comme sonne la cymbale de ton cœur. Charlival.
Voilà, ben on est désolé pour le l'insert téléphonique.
On
n'arrive pas.
Miscudero et
un
ami qui vous aime beaucoup, qui réessaye encore, mais apparemment ça, on voulait faire un insert téléphonique avec un ami chanteur qui a fait plusieurs fois votre première partie et qui a un souvenir inoubliable avec vous. Et vous avez été le parrain de son cirque.
Ah, ben je sais qui c'est alors.
Voilà. Alors c'est notre ami Guy de Maisoncelles.
Absolument, voilà, oui, qui est parrain du cirque, bon.
Voilà. C'est une personne délicieuse et que j'ai rencontré plusieurs fois. Et il habite vers Nantes maintenant. Et voilà, on voulait vous faire de la surprise qui ne va pas marcher. Aujourd'hui, c'est un peu les. Mais on l'embrasse très fort.
Ils sont encombrés partout, quoi.
Alors, si vous avez un petit mot à lui communiquer.
Un petit mot, j'ai dit salut. Salut Guy. À lui et à toute la famille au cirque.
Oui. Hein? Alors, le cirque va s'arrêter parce qu'il est très fatigué. Mais il va continuer. Il organise un spectacle qui s'appelle le kiosque à musique avec la municipalité.
Ça va le rendre malheureux d'arrêter le cirque, hein, parce que c'était plus sa passion que la chanson encore. Hein.
Oui, il y avait les deux.
Le cirque, je crois, quand même. Plus passionné, quoi.
Et vous êtes un petit peu sensible à tout ça, à tout ce qui est saltimbanque, tout ce qui est les gens du voyage. Hein,
ouais.
On connaît cette magnifique chanson des Bohémiens. Mmh. Et donc je crois que Guy, c'est un peu une personne comme ça qui est prête à voyager avec les gens et pour les gens. Hein, c'est un peu ce que vous faites aussi,
oui.
Par rapport à la chanson et à votre vie en général. Hein? Mm. Est-ce que c'est bien ce que je... Voilà. Est-ce que c'est exact ce que je dis là? Oui. D'accord. Alors, bon, moi j'ai préparé des petites choses par rapport à la chanson, en fait, parce que moi je connais que ça, en fait. C'est vrai que c'est... Enfin, je connais que ça, j'exagère. Je suis intéressée politiquement également. Mais c'est vrai que je suis plus sensible à tout ce qui est chanson. Et vous parliez d'Hidalgo tout à l'heure, mais j'ai un livre là qui s'appelle Putain de chansons, où vous avez un petit topo, le sous-titre c'est Vivre pour des idées, et ça vous l'avez fait toute votre vie, hein, Vivre pour des idées. Mmh. Et alors où justement Fred Hidalgo qui disait que, et ça on est d'accord avec lui tous ici, vous êtes un tendre qui se révolte avec beaucoup d'authenticité, générosité, autant dans la chanson que dans la réalité.
Oui, oui, oui.
c'est vrai, ça aussi, hein, je crois. Alors, j'ai noté une chanson qui s'appelle Mal en France, que je n'ai pas, qu'on ne peut pas diffuser. Et je ne crois pas que je la connaisse, cette chanson qui s'appelait Mal en France. Et c'était une des premières que vous aviez écrites.
Non. Mais ce n'est pas important que vous ne la connaissiez pas.
Ah bon?
Pas grave.
Parce que je trouve beau ce qui était écrit. Moi qui rêvais étant enfant, que je vivrais plus de 1000 ans, que j'irais plus loin que le vent.
Oui, mais parce qu'elle est... Elle peut suggérer, je vais dire, des pensées erronées.
Ah, d'accord.
Moi, je regrette rien de mon enfance.
Bien sûr.
Rien.
Non.
Je les changerai contre rien. Donc, le titre, déjà, Mal enfance. Alors là, c'est seulement parce que j'étais cloué, parce que j'étais môme.
Oui.
Effectivement, je rêvais de voyage. Et que je... À part, moi j'allais pas plus loin qu'un jet de pierre. Hein. J'avais pas même pas un vélo. Bon. Donc tout à pied, ça faisait pas aller loin. Hein.
Ça vous faisait rêver pour.
Oui.
Mais quand même, vous dites j'ai parcouru des continents, mais c'est à toi que je pense, Mal en France.
Oui, autant où je rêvais ça. De le faire. Mais c'est pour ça, c'est peut-être pas bien dit, c'est trop. Moi, je le sais.
C'est plus ça.
Et j'ai l'impression que les autres le savent aussi.
D'accord.
Et c'est pas exactement, c'est peut-être pas la vraie vérité.
C'est plus vraiment
donc,
ça aujourd'hui.
Mais je renie pas, hein, je la renie pas. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas.
Mais à propos d'enfance, pourquoi est-ce qu'elle est pas dans le bouquin là? Parce que ça commence à.
À 20 ans.
Le bouquin commence à la première embauche là. Je crois même que c'est le titre du premier chapitre. Et il n'y a pas l'enfance, là, dans le bouquin. C'est sur un autre ?
Oui, c'est Chaussouli. Il n'a pas écouté tout à l'heure, lui-là. Hein.
Il n'a pas écouté. Non, il était à la porte.
Il a expliqué en rigolant qu'il avait fait comme Céline.
Moi, j'ai cru qu'il y avait un truc. Moi, j'ai cru qu'il y avait quelque chose en dessous de la casquette.
Son enfance. Il racontera son enfance après.
Il
n'y
a rien
dans un autre
en dessous de la casquette, là, ou quoi, là.
C'est volontaire. C'est pas qu'il est devenu amnésique.
Non, non, mais il n'a pas écouté. Non, non, tiens.
J'ai pas compris.
Ah bah c'est pire alors. Moi je t'ai pas écouté, t'as une excuse.
Oui, c'est la technique ici.
Ça veut dire que t'es mal appris, mais t'es pas obligatoirement con quoi. Là, t'as choisi, t'as plutôt de. Bon bah, ça te regarde. Hein.
En fait, au contraire, je crois que l'enfance tient une énorme place, une énorme place.
Ah bah c'est la plus longue.
C'est la plus longue période.
Moi, m'a fait entièrement. Entièrement.
Dans Petite Mère.
Entièrement, entièrement. Parce que dans celui-là, quand je parle. J'ai dit que j'ai retrouvé la solidarité quand j'ai retrouvé les. J'ai travaillé dans le bâtiment. Mais c'est une solidarité que j'avais perdue, que j'avais connue en Espagne. J'avais connue en Espagne. Moi, j'ai les souvenirs de la guerre d'Espagne, j'en ai plein, mais comme si c'était hier.
Alors que vous étiez très jeune.
Mais oui, j'étais très jeune, mais je n'étais pas con.
Non, bien sûr. 4 ans,
c'est. Non, 7.
À 7. Ah, c'est jusqu'à 7.
4 ans, elle démarre. D'accord. Elle dure 3 ans.
Oui, oui. D'accord.
Alors on est une éponge à cet âge-là. Hein. Mmh. Les souvenirs, ça s'imprime. Hein. Mmh. Surtout quand ce sont des souvenirs comme ça.
Bien sûr.
C'est pas sa première sucette. Hein. Mmh. C'est les premières bombes, les premières fois il faut courir dans la rue, parce qu'un côté de la rue est aux républicains, l'autre côté de la rue est aux franquistes, et la fontaine d'eau, elle est du côté des franquistes. Il faut y aller quand même. Mmh. Et ils allument les mômes. Mmh. Comment ça, Sarajevo ? Pourquoi ils les allument ? Pourquoi ? Soi-disant pour faire tomber le moral des troupes, voilà. Parce que les parents qui ont perdu leur gosse, pour eux, ils disent qu'ils ont perdu le moral. Rituer les mômes.
Et donc, c'est vrai qu'après avoir le langage pour arme, après de telles situations, de telles horreurs que vous avez pu voir, c'est un peu logique. C'était votre principale arme, et ça l'est encore. Ce
oui,
langage
mais...
que vous avez appris... Après.
Oui, oui, oui.
La langue française est très importante pour vous,
pour
la langue maternelle.
Oui, oui, moi. Au début, moi, quand les autres me traitaient de sale espagnol, tout ça. Bon, d'abord, c'est vrai qu'au début, j'entendais sale espagnol, mais pas longtemps. Hein. Ils continuaient à m'appeler sale espagnol, et moi, c'est curieux, j'entendais sale pauvre, sale pauvre. J'avais déjà compris que si on était arrivé en Cadillac, on ne nous aurait pas traité de sale espagnol. Ah non, non, merci. Sûrement pas. Voilà, ce que nous reprochait surtout, c'était notre misère. Bon. Et de peur sans doute qu'on prenne la leur. Et moi je disais aux mômes qui m'insultaient que ça, je disais ta langue, je vais la mettre dans mon lit. J'enferme ma pute. Dans mon lit, je vais la mettre ta langue. Et puis, au fil des ans, je me suis aperçu que c'était elle qui m'avait mis dans son lit. Que c'était elle qui m'avait eu. Mais alors, jusqu'au trognon, je me suis fait avoir par la culture française, mais alors, je me suis fait avoir par les Céline, les Pérec,
oui, les
Kafka,
que
parce
tout
que
ouais.
Tout ce que j'ai lu, même si ce n'était pas l'original en français, hein, bon, mais c'était traduit, pour moi c'était toujours la langue française. Et la langue française m'a eu, mais là j'en parle pas là, j'en parle dans l'autre.
Dans le prochain livre.
Mais au moment de Stalingrad, mon petit père nous a réunis. On vivait à 8 dans 2 pièces. Bon. Nous a réunis dans une des pièces. On se mettait à genoux quand on avait des choses à se dire pour se tenir tous comme ça. Voilà. Hein? Comme ils font là au rugby ou les footeux et tout ça. On l'avait déjà inventé, nous, ça. Et là, il nous a parlé. Et nous ont dit, mon petit père nous a dit, ils ont perdu à Stalingrad. Les Allemands ont perdu la guerre. Il dit, bientôt, on pourra retourner en Espagne. Moi, ça a été un coup de poignard, quand il a dit ça. Un coup de poignard. Retourne en Espagne. Laissez derrière moi Mallarmé. Laissez derrière moi François Villon, Rimbaud, Baudelaire. Et je ne pouvais pas. Moi, je voulais rester en France. Mais pour rien au monde, je ne l'aurais dit. Pour rien au monde, je n'aurais tué le rêve de mes parents.
Bien
pour rien au monde. Mais moi, je ne voulais pas retourner. Ça a été un... pour moi, c'était pas une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle que les Allemands perdent la guerre.
Bien sûr.
Mais que nous retournons en Espagne, non. Moi, ça y est, c'était fait, moi. Moi, j'avais une culture française.
Et
pourtant, alors que
retourné.
Ma mémoire...
Vous n'y êtes pas retourné.
Que ma mémoire était toute faite de la guerre d'Espagne. Si, j'y suis retourné. Ah, mais autant de Franco.
Ah, d'accord.
Après Franco, la Movida, ça m'a pas intéressé. La Movida des socialistes, encore une fois, ça m'a pas intéressé du tout, du tout, du tout. J'y suis plus retourné après. Puis je regrette encore aujourd'hui qu'on n'ait pas... Moi, je veux pas la vengeance ni la revanche, mais qu'on n'ait pas rendu leur dignité aux combattants républicains. Je trouve ça quand même assez dégueulasse. Hein.
Voilà. Bien sûr. On va écouter une petite chanson, peut-être.
Là, il n'y en a pas de petite, hein, si
voilà.
C'est une des miennes.
Voilà.
Non, non, si c'est une des miennes, je te dis tout de suite. Il n'y en a
alors,
pas de petite.
Chanson, bien sûr.
Une de tes chansons.
C'est une grande chanson, bien sûr. Quand je dis petite, c'est affectif.
Non, mais dis, après tout ce qu'on s'est farci pour venir là, pour se faire insulter en plus.
Non, c'est pas une insulte. Non, non, c'est pas une insulte de ma part. Du tout, du tout, du tout, du tout. Vous inquiétez
pour
pas.
Pour la route.
Il y a des jours comme ça, je voudrais que tout s'arrête et reposer ma tête dans le creux de ton bras. Et là, je voudrais tant oublier ma détresse sous l'infinie tendresse que m'apporte ta voix. Il y a des jours comme ça, lorsque ma tête roule, je voudrais que tout s'écroule, parce que tu n'es pas là. Dis-moi, petite mère, où est-il le chemin pour aller à la guerre? Moi je ne sais plus très bien, dis-moi petite mère, où est le vieux tilleul qui lorsque j'étais seul, me croyant un poète, m'a entendu criant, aux diables à la ronde, je referai le monde lorsque je serai grand, m'a entendu criant, aux diables à la ronde, je referai le monde lorsque je serai grand. Maintenant, tu sais, j'ai perdu l'insouciance du temps de mon enfance. Toi, tu me consolais. Il y a des jours comme ça, adieu que je regrette, le temps perdu peut-être, je ne comprenais pas. Lorsque sur mon front lourd, ta main venait si tendre, comme pour y répandre ton cœur chargé d'amour. Dis-moi, petite mère, où est-il le chemin pour aller à la guerre? Je ne sais plus très bien. Dis-moi, petite mère, où est le vieux tilleul qui, lorsque j'étais seul, me croyant un poète, m'a entendu criant, aux diables à la ronde, je referai le monde lorsque je serai grand. Et vois-tu maintenant, j'ai tant peigné ma tête au mur de la planète, je pleure d'être lent. Et vois-tu maintenant, j'ai tant peigné ma tête au mur de la planète, je pleure d'être grand. Et vois-tu maintenant, j'ai tant peigné ma tête au mur de la planète, je pleure d'être grand. Et vois-tu maintenant, j'ai tant peigné ma tête au mur de la planète, je pleure d'être grand. Et vois-tu maintenant, j'ai tant peigné ma tête au mur de la planète, je pleure d'être grand.
Voilà Gérard, eh ben, nous je crois que pour Chronique Hebdo, ça va être terminé.
Pour de Rimes et de Notes aussi, de Rimes, on va voir. Alors pour Léni Scudero, si tu restes, Marlène qui décide, hein, évidemment, que c'est comme ça maintenant, hein, elle va décider. Soit c'est prévu que tu restais jusqu'à 13h, non?
Ouais.
Hein, c'est ça.
Ouais.
Donc on pourra.
De 11h midi et
on
midi.
Approche, on approche.
Midi 13h.
C'est ça. Donc,
on va passer encore. Si vous avez encore deux petites questions à poser. Moi, je voulais dire qu'il avait eu quand même des amis, des gens quand même qui l'ont aidé, Lenny. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est Canetti. Il me semble que j'ai lu. Canetti. Je ne sais pas s'il m'entend bien, mais.
J'entends pas bien, non. J'ai entendu Canetti. Alors.
Voilà. Canetti, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même cru en toi et qui t'a beaucoup aidé. Non,
Jacques Canetti.
Est-ce que Canetti t'a aidé?
Est-ce qu'il t'a beaucoup aidé?
Bon, oui. Canetti, ce qui m'a fait surtout que il m'a fait entrer pour la première fois, alors que j'auditionnais partout, on me prenait nulle part. Mmh. Et Canetti, sans m'avoir vu sur scène, rien que à l'écoute de quatre chansons que j'avais enregistrées lors d'une manière. Tu sais, à l'époque, il y avait dans Paris, en tout et pour tout, oui, il y en avait quatre ou cinq, des trucs s'appelaient des dictaphones. Mmh. Tu mettais une pièce de 500 sous. Les pièces blanches, la légère, là. Et puis c'était un message, tu vois, que tu pouvais faire, un message verbal. Et moi, j'avais un pote qui m'accompagnait à la guitare derrière. Et j'avais chanté Balade à Sylvie pour une amourette, parce que tu lui ressembles. Enfin, trois ou quatre chansons. Mais un truc, mais dégueulasse, c'était un disque souple, mais vraiment souple. Hein. Tu pouvais faire un nœud avec. Alors, avec les bruits des bagnoles derrière et tout. Dégueulasse. Et alors... j'avais une copine. Qui avait une copine qui connaissait la fille d'une concierge, où il y avait un des auxiliaires de Jacques Canetti, il s'appelait Jacques Bergeret. Et j'ai dit, bon, elle me dit, donne-le-moi, je vais y donner. Pour ma copine, elle va la donner à sa copine, qui va la donner à sa mère, qui va la donner à Jacques Bergeret. C'est-à-dire vraiment la bouteille à la mer, quoi. Et moi, j'ai dit, après tout, bon, pourquoi pas, on va essayer. Et je lui donne. Putain, un jour, je reviens du chantier. Et là-bas où j'étais, moi, à Belleville, mon moniteur qui était ma concierge, me dit, Lenny, on a téléphoné pour toi. Il dit, il faut que tu rappelles. Je dis, ah bon, qui c'est? Il me dit, c'est Philips. Il dit, t'as un rendez-vous lundi à telle heure. Je dis, arrête, une berlure, là. Je dis, attends, et Philips J'ai dit, moi, je faisais même pas le rapprochement, tu vois. Mais je savais que Philips, c'était Canetti. Je dis, arrête. Je dis, qui c'est qui t'a dit que ça m'aurait intéressé de... Il dit, mais je te jure que c'est vrai. Il dit, j'ai même regardé justement pour voir hein, si c'était pas. Si on ne baladait pas. J'ai regardé dans le bottin. Il dit, le numéro, il correspond à Philips. Hein. C'est Philips. Je l'ai le numéro. Tiens, il dit, tu crois pas que je t'aurais monté une affaire pareille? Non, arrête. J'ai autre chose à foutre. Bon, bref. Okay. Moi, le lundi, je me pointe. Et c'était effectivement Canetti. Hein, bon. Alors, je raconte dans le bouquin, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ou si c'est qu'il a voulu faire, tu vois, une espèce de petite légende dont sa fille, à l'époque, Françoise, qui avait 8-9 ans, aurait été l'héroïne. Parce qu'il m'a dit, que tous les vendredis soirs, il partait en week-end, il avait une propriété...
À Saint-Cyr-sur-Morin.
Oui, ou... Saint-Cyr-sur-Morin, exactement.
À côté de Macorlan, oui.
Voilà, à côté de Macorlan. Et il dit qu'il mettait sur son bureau, un coin de son bureau, tous les disques qu'il voulait écouter pendant son week-end. Voilà. Et là, il a enfourné dans sa serviette les trucs, bon, et il est allé, il a posé ça dans son bureau qui était à l'étage, à Saint-Cyr-sur-Morin. Et d'un coup, il voit Françoise, c'est lui qui parle là. Françoise qui descend, les yeux écarquillés, émerveillés. Papa, papa, je veux que tu m'emmènes aux Trois Baudets. Je vais aller aux Trois Baudets et je vais écouter le nouveau. Dit, comment ça, le nouveau, qui ça? Lenny Varin. J'avais pris un pseudonyme, moi. Parce que je me disais, Scudero, putain, arrête. SQQ, tout ça, à l'école, j'en ai. S'il y a un blast pareil, on ne retiendra jamais. Bon,
et
bref.
Alors, voilà.
Mais j'ai gardé mon prénom. Il dit, Lenny Varin, mais je ne connais pas. Mais dis, t'as son disque dans ta serviette. Mais dit, mais enfin, dit, j'ai pas sondé, je connais pas. Je dit. Ben, moi, je t'ai dit que je viens d'écouter. Mmh. Ben, bon, ben, je monte, il monte. Il dit, alors, je suis allé dans sa chambre. Il dit, où elle avait son tépas, tu vois. Il dit, et là, je vois un disque souple, innommable. Et elle le passe. Ah, mais il dit, mais en revanche, il dit, bon, l'enregistrement vraiment ignoble, mais des belles chansons. Alors là, ça m'intéresse. Je suis intéressé. Et il dit, voilà, bon. Et c'est comme ça que je vous ai fait venir, que vous m'intéressez. Voilà. Bon. Ce soir même, vous passez aux Trois Baudets. Écoute. m'a crucifié. Il m'a donné. Félix Leclerc, arrivé du Canada, il avait rendez-vous avec lui. Et il demande à Félix, il dit, écoute, ça c'est un tout nouveau, un jeune auteur-compositeur. Il dit, vous voulez être son parrain? Et Félix, tu sais, il dit, ouais, moi je veux bien être son parrain, pas de problème. Bien être son parrain. Bon, et à un moment donné, Canetti sort du bureau et il nous laisse tous les deux tout seuls. Moi, je dis à Félix, puisque vous êtes mon parrain, je dis, vous ne pouvez pas demander que je chante derrière le rideau? Et il me dit, comment ça derrière le rideau? Ben, je dis, oui, moi, le rideau fermé devant moi. Ben, il me dit, tu sais ce que ça veut dire, tout chaud, chaud bise, tu sais ce que ça veut dire, chaud? J'ai dit, non. Il me dit, tout chaud, ça veut dire montrer. Il dit, c'est pour se montrer qu'on fait ce métier, tu vas pas te mettre derrière. Il dit, t'es un drôle de petit gars, toi. Ah ben, il dit, ça, j'en ai vu des bizarres. Il dit, mais toi? Bon, bref, il a fallu que je passe devant. Ce que j'ai, bon, et donc, il m'a donné des lettres de noblesse, là, tu vois. Que Canetti à cette époque-là m'engage, parce que les trois Baudets, attends, les trois Baudets, c'était Brel, c'était Brassens, c'était De Vos, c'était Catherine Sauvage, c'était Etex, c'était. Il n'y avait que du beau monde, hein, et là, Félix Leclerc. Il y avait une troupe absolument incroyable, extraordinaire, d'auteurs-compositeurs. C'est que quand il s'est fait lourder de chez Philips, pourquoi il s'est fait virer? C'est que Brel, il fait un disque. Il en vend trois. Canetti dit, c'est pas grave. Il dit, c'est quand même un bon disque et des belles chansons. Hop. L'année d'après, il refait un disque. C'est les huit titres, là, hein, 25 cm. Il refait 25 cm. Il en vend six. Canetti dit, oui, ça augmente. Hein? C'est bien. Mais elles sont de plus en plus belles. L'année d'après, il en fait un autre. Là, il en vend 12. Ah ben, on arrive presque à la consécration, dit Canetti. Hein? Et l'année d'après, il refait encore un 25 cm. Ah! Mais là, Badadoum, il y a, je ne sais plus si c'est la valse Hamilton ou le Moribond, et là, Badadoum, il en vend 50 000, et ceux qui ont acheté les 50 000 veulent le premier, le deuxième et le troisième. Lui travaillait comme ça, donc, des capitaux qui étaient gelés pendant longtemps. Et d'un seul coup, la maison mère en Hollande s'aperçoit qu'avec les yéyés, on les prend à la sortie du lycée, on leur achète un smoking, une chemise à jabot en dentelle, des souliers vernis, une guitare basse et un tambour, et ils en vendent 500 à 600 000 sur un premier contrat. Où on les exploite, mais à mort, en se disant, il n'y aura pas de deuxième contrat. Parce qu'ils disent, ça va être un feu de paille. Hein, mais pendant les trois ans où ils vont vendre, nous, on va se bourrer. Et Canetti, il est devenu obsolète. Ça ne les intéresse plus. Alors, ce que je peux reprocher à Canetti, c'est que quand ils l'ont viré, si j'ai fait confiance, il devait lui quand même avoir un contrat qu'il garantissait quand même un peu. Hein. Bon. Mais il n'a pas du tout pensé à moi. Parce qu'il aurait pu à ce moment-là dire, bon, écoutez, Escudero, c'est le dernier que j'ai engagé. J'étais le dernier. C'est un auteur-compositeur de ceux que vous n'aimez pas. Alors rendez-lui son contrat. Hein ? Ouais. Voilà, moi, je veux le libérer, puisque de toute façon, vous, ça ne va pas vous intéresser. Il n'est pas intervenu du tout, il m'a laissé. Il n'a pas du tout pensé à moi. Et moi, je suis resté 3 ans au frigo chez Philips. Eux, ils voulaient que je fasse justement des adaptations américaines. Et moi, je disais non, je voulais pas. Et pendant 3 ans, j'ai dit non. Aller décharger des camions au Halles, aller saler les pots à la Villette, j'en ai parlé là-dedans. D'ailleurs, je dis même que si... comment il s'appelle celui qui écrit
le livre?
Non, Dante. J'ai dit que si Dante, il a traversé l'enfer, il n'a pas tout vu. Hein. Oui. Les chaleurs de pots, je vais te dire...
Alors, Léni,
on est obligé de.
Là, voilà.
Moi, je vous ai répondu.
Oui, oui.
Très bien.
Là,
très bien.
L'émission, bien. Alors, l'émission oui. Chronique Hebdo s'est terminée depuis
voilà,
midi.
Depuis un moment déjà.
Et...
Oh, pas vraiment.
Alors, c'est la
l'émission
continuité.
De Rimes et Donuts.
C'est le changement dans la continuité.
Après, voilà, après,
oui, mais il y a des invités qui attendent.
Après une heure.
Voilà.
Donc, je voulais rappeler ce matin, alors, le livre, l'ouvrage de Léni Escudero, Ma vie n'a pas commencé, publié au Cherche Midi. On remercie aussi Jean-Paul Liégeois.
Ah oui, on peut. Ouais. Voilà, il n'a pas beaucoup parlé.
Sur le blog. Hein.
Si, je vais parler avant que tu viennes. La première partie, tu verras. Ah. Léni, tu pourras réécouter sur notre fameux podcast, hein, comme on dit. Ouais. Et puis Floréal.
Merci à tous.
Oui. Merci Floréal qui est venu ce matin. Ouais. Intervention aussi, si c'était important pour l'accueil de Léni.
Je voulais signaler un truc, c'est vachement bien d'avoir mis à la fin du bouquin le bel article de Nicolas.
Ah, oui.
Que Léni m'a rappelé. Ah, ouais. Voilà. Il me l'a rappelé de Nicolas Choquet. Celui qui termine.
Moi, je me rappelle
pas de l'article. Je l'ai relu.
Oui, mais surtout ça.
Ah, mais moi, je me régale, je le relis.
Et puis Marlène.
Et donc, c'est fini pour nous, Léni. Eh bien, on s'en va et on va boire un coup.
Et comme il aime beaucoup Paris, on va mettre sa chanson Belleville.
Très bien.
Alors, 3.
Ma rue de Belleville, mon vieux faubourg, tu danses tranquille sur mes amours. La vieille rengaine des monts Mapoulbeau fredonne et je t'aime au creux de ton métro. Ma rue de Belleville, ma vieille cité, Paris s'illumine, toi seul savais planquer tes ruelles loin des étrangers qui crèchent ta Courcelles aux Champs-Élysées. Où sont mes rêves de gosse? Que sont devenus mes amis? Moi, je voulais rouler ma bosse, mais quand on revient au pays, ma rue de Belleville, comme tu as changé, Dieu c'est pas possible, tu t'es fait saouler. Où sont tes lanternes, je vois plus du néon, j'ai le cœur en berne d'un accordéon. Ma rue de Belleville, mais où t'es ma rue, t'es comme la grande ville, tu m'as pas reconnu. T'as plus de guinguette comme au temps passé, maintenant à tes fêtes, faut se faire inviter. Rue de Belleville, adieu pour toujours. Je pars à la grande ville, je reprends mes amours. Aux Champs-Élysées, je ne pourrai sûrement pas me rappeler qu'il y a longtemps. Ma rue de Belleville, mon vieux faubourg, tu danses tranquille sur mes amours. La vieille rengaine des monts Mapoulbeau redonne et je t'aime au creux de ton métro. Ma rue de Belleville, ma vieille cité, Paris s'illumine, toi seul savais planquer tes ruelles loin des étrangers qui crèchent ta Courcelles aux Champs-Élysées.
Ne crains donc.